Laudetur Jesus Christus.
La France d'un rebond politique à l'autre à 6 jours du premier tour des législatives anticipées. Le parti favori des sondages, le Rassemblement National, se dit apte à gouverner. Il pourrait remporter l'élection pour la première fois dans l'histoire dans un contexte de peur, de tension. L'Église appelle à la raison, à un dialogue dans la vérité. Un attentat le jour de la Pentecôte orthodoxe au Daghestan. Des églises, des synagogues ont été visées. Au moins 20 personnes ont perdu la vie. Nous revenons sur ces attaques dans ce journal. Et puis Gaza, 262e jour de guerre. L'enclave palestinienne était encore pilonnée aujourd'hui, mais les combats intensifs seraient sur le point de toucher à leur fin, notamment à Rafah. Une annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Dernière ligne droite avant les législatives anticipées en France. À 6 jours du premier tour du scrutin, le Rassemblement national, crédité à plus de 30% dans les sondages, est situé, on le sait, à l'extrême droite sur l'échiquier politique, a présenté son programme, se disant prêt à gouverner. Son chef Jordan Bardella tentera de revenir sur le droit du sol. Il veut abroger la réforme sur les retraites et promet un big bang de l'autorité dès septembre à l'école, avec notamment une interdiction des téléphones portables. Le RN se dit vigilant à l'intrusion Le RN se dit vigilant à toutes les interventions russes, dans la campagne notamment. Et c'est un parti d'opposition et non de gouvernement, réaffirme Gabriel Attal, le Premier ministre sortant pour le camp présidentiel. À gauche, les écologistes promettent ce soir de se désister au second tour pour faire barrage au RN, tandis que l'Alliance de gauche vise le pouvoir, mais sans s'accorder sur la place de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la gauche radicale. Les fractures sont là, les tensions aussi. Comment l'Église peut-elle y répondre ? Avec sagesse, Monseigneur Le Borgne propose aux catholiques d'adopter une attitude propice au dialogue et à la raison. On l'écoute.
On a d'autant une posture qui soit une posture de dialogue, y compris dans des désaccords profonds qui traversent même les familles, ne pas se laisser porter par la passion. Mais je crois beaucoup que les chrétiens ont réhabilité la raison, essayé de discuter en raison. Et puis, c'est aussi eux-mêmes de nourrir leur discernement avec, d'une part, une réflexion à pas travailler, et d'autre part, porté dans la prière, se laisser éclairer par la doctrine sociale de l'Église, et puis pour certains, je l'espère, s'engager au service de la cité. Je rappelle que le pape Pie XI disait que la politique était la plus haute forme de la charité, puisque c'est la charité jusqu'à la dimension de la cité et du bien commun. Donc j'espère que des catholiques pratiquants s'engagent en politique.
Cette fracture dans la société existe également au sein de l'Église. Comment les catholiques peuvent-ils former une espèce de laboratoire de coexistence de différents points de vue?
S'il y a un pluralisme légitime quant à l'appartenance politique et au vote parmi les chrétiens, parce que le vote ne vient jamais en direct de l'Évangile, mettons-nous ensemble face à l'Évangile pour nous laisser rencontrer, bousculer et travaillons pour arriver à des décisions en conscience. Mais une décision en conscience qui n'est pas dupe de ce qui se passe, mais ne se laisse pas dominer par la peur ou la passion, mais cherche la construction de la paix sociale.
Monseigneur Olivier Le Borgne, l'évêque d'Arras, de Boulogne et Saint-Omer, il sera demain l'invité de Radio Vatican à 8h30. Et puis malgré les incertitudes liées aux législatives françaises, Paris, Berlin, Varsovie ravivent ce soir dans la capitale française le triangle de Weimar, première réunion de leurs ministres de la Défense depuis 2015 pour coordonner leur position face aux menaces russes, notamment avant un sommet de l'OTAN prévu en juillet à Washington. L'Ukraine a alors des coupures de courant et des frappes russes. Elles ont fait au moins 4 morts et 40 blessés dans la ville de Podkrovsk, dans la région de Donetsk, mais aussi 2 morts et 50 blessés à Odessa. Ces attaques interviennent au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée, annexée, menée selon le Kremlin à l'aide de missiles américains. L'ambassadrice américaine a d'ailleurs été convoquée à Moscou. Et puis le pape François, qui porte l'Ukraine martyrisée dans ses prières encore hier à l'Angélus. Il a salué ce matin le cardinal Krajewski, son aumônier qui partait pour la 8e fois dans le pays en guerre pour offrir une 3e ambulance à un hôpital de la région de Ternopil. En attaquant le jour de la Pentecôte orthodoxe, les auteurs ont tenté de semer la haine et la discorde entre les différentes nationalités, cultures et religions, de détruire la paix. Le patriarche de Moscou et de toutes les Russies condamne aujourd'hui les attaques qui ont visé hier les lieux de culte juifs et orthodoxes dans 2 villes de la République du Daghestan. 20 personnes ont été tuées, 46 autres blessées. Les autorités locales ont décrété 3 jours de deuil. Jean-Didier Revoin.
L'attaque n'a jusqu'à présent pas été revendiquée et selon les médias, les autorités examinent toutes les hypothèses, celle d'un acte commandité de l'extérieur du pays comme celle d'une attaque fomentée au sein même de cette république du Caucase. Hier soir, des sources policières avaient confié à certains médias que tous les auteurs de cette attaque provenaient du Daghestan et que plusieurs d'entre eux étaient liés à des cercles wahhabites. Sergueï Melikov, le chef du Daghestan, a dénoncé une volonté de déstabiliser la société et de mettre à mal la paix confessionnelle et interethnique dans le pays, un argument très souvent mise en avant par le président Vladimir Poutine lorsqu'il fait la promotion du mode de fonctionnement de la société russe. Un modèle qui est régulièrement mis à mal. En octobre dernier, l'aéroport du Daghestan avait été envahi par une foule hostile, décidée à en découdre avec les passagers d'un vol en provenance d'Israël. Une opération qui n'avait fait que des dégâts matériels. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
C'est une guerre contre les enfants. L'ONG Save the Children s'insurge ce soir. Selon leur décompte, au moins 21 000 enfants seraient actuellement portés disparus à Gaza, en plus des 14 000 morts dans les combats. Des bombardements étaient encore en cours aujourd'hui dans l'enclave palestinienne, après l'annonce pourtant du Premier ministre israélien. Il parlait hier d'une phase intense des combats qui touchait à sa fin, notamment à Rafah. La correspondance de Sandy Fortis à Tel Aviv.
Dans sa toute première interview accordée à un média israélien depuis le début de la guerre, Benjamin Netanyahou a donc annoncé la fin proche de la phase intense des combats dans le sud de la bande de Gaza, mais il a précisé que cela ne signifiait pas une fin de la guerre. Celle-ci se poursuivra tant que le Hamas ne sera pas anéanti. Dans cette interview diffusée par la chaîne 14, chaîne acquise à la droite israélienne, le Premier ministre a ajouté qu'il était prêt à conclure un accord partiel avec le Hamas dans le but de libérer une partie des otages détenus depuis 262 jours à Gaza, mais qu'il n'était pas prêt à mettre fin à la guerre, laissant le Hamas debout. Des propos qui ont suscité de vives réactions auprès des familles des otages, qui accusent Benjamin Netanyahou de revenir sur la position israélienne quant à la dernière offre d'accord annoncée par Joe Biden, impliquant le retour de tous les otages en plusieurs phases. Le bureau du Premier ministre a ensuite précisé que c'est le Hamas qui bloque les négociations et que Tsahal ne quittera pas Gaza sans avoir récupéré tous les otages, les 120 otages, vivants et morts. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis, journaliste i24 News pour Radio Vatican.
La guerre qui, on le sait, a aussi provoqué une escalade militaire à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Le Liban se trouve en ce moment et jusqu'à jeudi le secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal Parolin présidait une messe en la solennité aujourd'hui de Saint Jean-Baptiste, patron de l'Ordre de Malte, dont il visitera d'ailleurs quelques-unes des centres et des structures humanitaires d'ici jeudi. C'est un sujet majeur pour la sécurité et l'ordre mondial. La course à l'armement nucléaire est loin de s'essouffler. En 5 ans, les dépenses liées à ce type d'armement ont explosé. Cette flambée est-elle directement liée à la multiplication des conflits? Pas forcément, répond Benoît Pelopidas. Il est chercheur associé à Stanford, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires de Sciences Po.
Le discours des États dotés d'armes nucléaires suggère que les armes nucléaires sont des réponses à l'évolution de la situation internationale. Supposément, donc, les États seraient contraints d'augmenter les arsenaux nucléaires en réponse à une dégradation de la situation nucléaire. Quand on regarde les arsenaux déployés aux États-Unis, en Russie, en France et au Royaume-Uni, on peut montrer qu'il y a un décalage systématique entre la justification avancée et les arsenaux effectivement déployés. Par exemple, pour la Russie et les États-Unis, nous sommes très largement en excès de ce que les états-majors de ces États présentent comme exigence de la dissuasion nucléaire. L'amiral Richards aux États-Unis a par exemple dit « L'arsenal américain aujourd'hui doit être en mesure de remplir toutes ses missions nucléaires, même si une composante de la triade sur les trois était intégralement supprimée. » La triade, c'est le fait que l'arsenal nucléaire américain se compose d'une dimension aérienne, terrestre, et d'une dimension maritime. Donc vous voyez qu'on est très en excès des demandes de la dissuasion telles que définies par les états-majors des États eux-mêmes. On peut dire la même chose pour la Russie, pour la Chine et pour la France.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Et puis elle revendique des capacités nucléaires toujours plus accrues. La Corée du Nord aurait envoyé de nouveaux ballons poubelles vers son voisin du Sud. C'est une affirmation de l'état-major interarmée de Séoul. Et puis en Inde, il entame son troisième mandat à la tête du pays. Narendra Modi entend gouverner dans la sérénité, il l'a dit devant le Parlement réuni pour la première fois, et ce malgré un revers électoral qui l'a forcé à former un gouvernement de coalition pour la première fois en 10 ans.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo-di-san-pietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Et c'est avec cet appel au don que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin, comme d'habitude, à 8h30. Je vous souhaite d'ici là une excellente soirée à toutes et tous.